commencer tranquillement. Nous sommes à peu près dans les délais. On va essayer de garder ce tempo. Pour cette deuxième table ronde de l'après-midi, on va attaquer, j'ai envie de dire, deux fronts, le champ politique en transformation, avec donc deux communications. Une première de Michel Koebel, donc intitulée « Pour une réappropriation collective de la démocratie locale ». Donc Michel Koebel, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Puis une deuxième intervention de Samuel Bourron, doctorant au CURAP à l'Université d'Amiens, avec une communication intitulée « La montée de l'extrême droite, de point, analyse d'une crise de représentation politique ». Voilà, Michel.
Ok. Donc moi, je m'attaque à la démocratie locale. Je vais faire un exposé, si vous voulez, en six points, dont les cinq premiers seront une analyse qui sont liées à ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé déjà. Donc je vais essentiellement présenter des résultats. Et le sixième point répondra peut-être à ce qu'une personne demandait dans la salle tout à l'heure. C'est des propositions. Donc je me suis contraint, c'était dans le cadre d'un travail collectif qui a donné lieu à une publication, de ne pas en rester à l'analyse simplement, mais d'essayer de faire le pas, ce que les chercheurs généralement ne font pas, parce qu'ils s'interdisent d'ailleurs en général d'aller jusqu'à la proposition. Donc là, je vais essayer de parler de propositions concrètes. Alors, dans un premier temps, donc, je voudrais montrer que les élections, alors que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est pareil de ce point de vue-là, les élections correspondent en fait à une sélection avant tout. Alors ça, évidemment, on sélectionne déjà à travers le corps électoral. Vous savez très bien que tout le monde ne peut pas voter, même si on appelle ça le suffrage universel, qu'il y a des exclusions dès le départ, puisque les jeunes, les étrangers, par exemple, et puis bien d'autres ne peuvent pas voter. Ensuite, à travers les modes de scrutin, les scrutins, par exemple, uninominaux, font que les femmes sont beaucoup plus exclues que lorsque les scrutins sont des scrutins de liste. Pour exemple, si on compare un scrutin uninominal comme les élections cantonales, pour élire les conseillers généraux, on a moins de 13% de femmes qui sont élues en France, alors que dans les conseils régionaux, qui sont un scrutin de liste, on a, du fait aussi de la loi sur la parité, bien sûr, hein, mais 48,3% de femmes. On sait également, mais ça j'y reviendrai plus tard, que les classes populaires sont les plus exclues de l'ensemble des élus en matière de scrutin uninominal. C'est également le cas dans les autres scrutins, mais dans une moindre mesure. Alors, cette proportion faible de femmes et de classes populaires et de jeunes, on pourrait aligner plusieurs critères, hein, sont pas seulement le fait de l'élection elle-même, mais aussi de la présentation aux élections. C'est-à-dire qu'il y a une auto-exclusion de certaines catégories par sentiment d'incompétence plus que par incompétence directement, quoi. Ensuite, troisième type de mode de scrutin, c'est le scrutin de liste quand il est scrutin de liste bloqué. Vous savez qu'un certain nombre d'élections font qu'on n'a pas le droit de choisir ses représentants parce que vous votez pour une liste complète. Si vous raturez un nom, votre bulletin est compté comme nul. C'est le cas, par exemple, des scrutins municipaux pour les communes de plus de 3500 habitants. Et on s'aperçoit que ce blocage du scrutin des listes fait que tout le pouvoir est concentré sur la tête de liste, hein, puisque c'est lui qui récupère le plus de pouvoir et qu'on peut ne voter que pour une liste complète. Quatrième exemple pour les modes de scrutin, ce sont les scrutins indirects. Hein, vous savez que les sénateurs, par exemple, sont votés par suffrage indirect. Mais c'est également le cas de tout ce qui est l'intercommunalité en France, qui est quelque chose qui monte de plus en plus. Il y a de plus en plus de pouvoir dans les collectivités de type intercommunal. Et que chaque fois qu'il y a un suffrage indirect, en fait, ça double la sélection, ça double le filtrage. Ensuite, il y a différentes techniques démocratiques qui font qu'on empêche certaines catégories d'accéder au second tour, par exemple, lorsqu'on impose des seuils minimaux au premier tour pour pouvoir passer au second tour. Là aussi, ça limite les petites formations politiques. Ça empêche en fait les petites formations politiques d'accéder au second tour et donc d'être représentées. Ça empêche les extrêmes en général d'être représentés. Ensuite, il y a encore un dernier effet que je voulais évoquée, c'est la proportionnelle qui n'est pas intégrale. Il faut savoir que dans les scrutins municipaux, par exemple, mais également régionaux dans une moindre mesure, il y a ce qu'on appelle une prime au vainqueur. Celui qui arrive en tête au premier tour le vainqueur des élections obtient une prime de 50% des sièges. Et ce n'est qu'à partir de ces 50% des sièges qui sont octroyés au vainqueur qu'on applique ensuite cette proportionnelle, où il récupère encore ce qu'il a gagné en proportionnellement à l'ensemble des autres listes. Ce qui fait que ça va provoquer une écrasante majorité du vainqueur. Hein, donc, puisqu'il obtient 50%, par exemple, s'il a eu 50% des voix, il va obtenir 50% des sièges, plus 50% de ce qui reste, ça veut dire 75% des sièges. Ça veut dire que là aussi, il y a exclusion, puisqu'il y a exclusion de l'opposition municipale qui n'a quasiment aucune voix pour se faire entendre. C'est également le cas pour les conseillers régionaux, puisque là, s'applique une prime au vainqueur de 25%. Mais on s'aperçoit qu'il faut des conditions extrêmement rares. Il faut qu'il y ait 4 listes qui se maintiennent au second tour et moins de 34% de voix au vainqueur pour que on puisse avoir, pour que la majorité devienne une minorité à quelques pourcents près. Voilà. Donc on s'aperçoit que là, élection égale sélection, élection égale exclusion. Deuxième partie de mon exposé, c'est le profil des élus. Qu'en est-il maintenant quand les élections sont passées? Qui détient le pouvoir? Alors, là, je vais citer quelques chiffres. Il faut passer par les chiffres, bien sûr. Hein. Les cadres et professions intellectuelles supérieures, par exemple, représentent 15% de la population active en France, ou du moins le représentaient aux dernières élections. Par contre, ces 15% de la population active, quand on regarde le profil des élus, s'aperçoit que 73% des sénateurs font partie de cette petite catégorie cadres et professions intellectuelles supérieures. C'est le cas de 42% des conseillers régionaux, 48% des conseillers généraux et 66% des maires de plus de 3500 habitants, des communes de plus de 3500 habitants. Si on prend la catégorie qu'on pourrait appeler opposée dans l'échelle sociale, que sont les ouvriers, on s'aperçoit qu'ils représentent 24% de la population active. Par contre, dans les quatre élections, que j'ai citées, sénatoriales, conseil régional, conseil général et maire de commune de plus de 3500 habitants, ils ne représentent que 0,6% et un maximum de 1,4% de ces différents élus. Alors, si on rapporte maintenant ces différents chiffres que j'ai cités à une chance d'être élu pour différentes catégories socioprofessionnelles, on peut dire qu'un ouvrier a 80 fois moins de chances d'être député, 44 fois moins de chances d'être conseiller régional, 68 fois moins de chances d'être conseiller général et 111 fois moins de chances d'être maire d'une commune de plus de 3500 habitants qu'un cadre à l'opposé de la hiérarchie sociale. Alors, si je rajoute aux ouvriers les employés sont quand même un peu plus représentés, eh bien, ensemble, ouvriers et employés représentent la majorité des actifs en France, hein, en gros entre 55 et 57%. Eh bien, ensemble, ouvriers et employés ne représentent que 5,9, 13, 9% ou 7% de ces différents élus, si je reprends dans l'ordre. Alors, on pourrait se dire, différentes raisons peuvent expliquer cela, et que peut-être que c'est mieux qu'avant, puisque la décentralisation est passée par là, on a rapproché le pouvoir des citoyens, on en a plus de pouvoir localement que nationalement. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, parce qu'effectivement, il y a 40 ans, avant la décentralisation, la situation était encore meilleure qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait un peu plus d'ouvriers, un peu plus d'employés qu'aujourd'hui, y compris dans la représentation nationale. Maintenant, troisième point, pourquoi il en est ainsi? Pourquoi on a une si faible représentation des ouvriers, des employés? Pourquoi il y a, on pourrait dire, une confiscation du pouvoir local par certaines catégories sociales? Alors, première explication, les tâches, avec la décentralisation aussi, les tâches sont devenues de plus en plus complexes. notamment pour les maires, qui doivent gérer toute une série de domaines. Donc il faut des compétences de plus en plus élevées pour pouvoir gérer l'ensemble de ces domaines. En plus, la compétition est de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de candidats. Et donc, il y a tout un savoir-faire, des compétences qui sont nécessaires en matière de communication, de prise de parole en public, qui sont plus importantes que ce qu'elles n'étaient avant. Ensuite, deuxième explication de ces différences entre catégories sociales, c'est qu'il existe des compétences qui sont apportées par la formation des gens, par leurs études, mais qui sont également apportées par leurs pratiques professionnelles. Et là, on voit qu'il y a une très grande différence entre ce qu'apporte, par exemple, la profession d'avocat, de chef d'entreprise, de DRH, ou de professeur. Hein, on pourrait prendre l'exemple d'universitaires qui sont amenés à parler régulièrement devant un public, comme je le fais actuellement. Moi, je parle devant des étudiants assez nombreux tous les jours. Au bout de 10 ans, 15 ans de pratique professionnelle, on a acquis une certaine facilité, on va dire, qu'on peut réintroduire, qu'on peut réutiliser lorsqu'on fait une carrière politique. Ce qui n'est pas le cas d'un ouvrier, sauf s'il est effectivement impliqué dans des activités syndicales depuis longtemps et qu'il a appris justement sur le tas, à force, ou bien par des formations syndicales, à s'intégrer. Je vais juste faire une petite parenthèse pour donner un exemple précis. Il y a quelques années, il y a un film, un long métrage qui a été fait sur la carrière d'un maire. Enfin, en l'occurrence, c'était une femme maire. Je ne sais plus le nom du film. En tout cas, ça a fait un peu le tour de France. Et moi, j'ai assisté à une des représentations qui s'est faite dans le 11e arrondissement à Paris, où le maire en question, la maire, était présente, ainsi que le réalisateur, avec un public très nombreux. Et on voyait dans le film comment cette femme, qui était ouvrière dans une usine dans le nord de la France, a réussi à devenir maire d'une commune qui s'appelait Louvroil, dans le nord de la France. Et on avait l'impression que, comme ça, par un coup de baguette magique, elle est devenue maire. Alors, loin de moi l'idée de penser qu'un ouvrier n'est pas capable de devenir maire, mais j'ai quand même posé la question publiquement pour savoir comment ça s'est fait, grosso modo. Et là, le maire en question, la maire, m'a répondu qu'effectivement, entre le fait de devenir maire de cette commune, Louvroil, dans le Nord, et le fait d'avoir été ouvrière en usine, il y avait 20 ans, je crois même 25 ans de syndicalisme, de militance dans un parti politique. Cette personne a été conseillère régionale, vice-présidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, elle a eu des responsabilités syndicales au niveau national, etc. Donc elle avait 20-25 ans de pratique syndicale et politique. Et c'est délibérément qu'elle avait choisi Louvroil parce que c'était la commune dans le Nord-Pas-de-Calais qui avait eu le plus de taux de vote pour le Front National dans l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, et que c'était un défi de sa part de vouloir briguer cette commune, de venir y habiter, puisque vous savez qu'il faut venir habiter dans une commune pour pouvoir s'y présenter. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement rare qu'un ouvrier, en plus, femme devienne maire d'une commune de plus de 3500 habitants. Mais c'est possible par une formation. Une formation qui peut être liée à un engagement syndical ou politique. Enfin bon, il y a des compétences réelles nécessaires à l'exercice du pouvoir, du moins dans certaines fonctions. Alors, il y a des compétences réelles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des compétences supposées. Ça veut dire que dans une élection, on vote pour vous non seulement parce qu'on sait que vous avez des compétences, mais aussi parce qu'on pense que vous les avez. Et c'est là aussi une double sélection, parce que les ouvriers eux-mêmes, quand on regarde le résultat des votes, vont moins voter pour des ouvriers qui se présenteraient que pour des cadres supérieurs ou même des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on pense qu'un ouvrier n'a pas les compétences pour. De la même manière, on pense qu'un jeune n'a pas assez d'expérience pour exercer des fonctions de maire. On pense qu'une femme a moins de compétences qu'un homme. On a vu que certaines élections, des femmes ont beaucoup moins voté pour une femme que pour un homme. Ça s'appelle les compétences supposées. Donc il y a tout un travail de représentation de ce que devrait être un élu pour pouvoir se présenter. Et donc il y a non seulement une auto-exclusion à la base, pour se présenter, mais également une exclusion par le vote parce qu'on pense qu'un jeune, une femme, un ouvrier ou un employé a moins de compétences pour exercer un mandat. Alors, petite remarque au passage, il n'y a aucune formation pour devenir élu. C'est-à-dire qu'en France, actuellement, il n'y a aucune formation pour acquérir les compétences nécessaires pour devenir élu, pour exercer le mandat de maire, par exemple. Et donc, parce qu'il n'y a pas de formation, il y a une inégalité en fonction du niveau d'études, de la profession, de l'âge, du sexe qui se met en place. Il y a pire que ça encore, c'est que les gens qui sont en place, c'est-à-dire les élus, vont vous tenir un discours qui est de naturaliser leur fonction, c'est-à-dire de dire que oui, mais on ne devient pas homme politique comme ça, on est homme politique, presque, on pourrait dire. On incarne, ou alors on a un charisme naturel. Tout ce qui est un discours naturalisateur comme ça a tendance à disqualifier des gens qui se formeraient pour devenir. Or, c'est tout à fait possible. Maintenant, autre aspect, il faut des ressources pour briguer et pour accéder à ces fonctions. Ces ressources, on s'aperçoit que plus le niveau brigué est important, c'est-à-dire que plus la commune en taille est importante, plus le poste va apporter du pouvoir, plus il faut des ressources qui viennent en partie des partis politiques. On s'aperçoit qu'il est très rare qu'à ce niveau-là de pouvoir, on puisse accéder à des postes de maire d'une commune de plus de 10 000, 20 000 habitants, par exemple, sans passer par un parti politique. On s'aperçoit aussi que quand on intègre un parti politique, vont jouer les mêmes freins, la même sélection, si vous voulez, que ce qui joue pour briguer un mandat, pour se présenter aux élections, c'est-à-dire que les mêmes filtres sociaux, sexuels, d'âge vont opérer à l'intérieur même du parti pour obtenir l'investiture, donc pour se présenter au nom du parti. On s'aperçoit également qu'il y a une baisse des notables. Dans les petites communes, on avait un effet notable, c'est-à-dire que le médecin qui habitait la commune avait plus de chances qu'un autre qui serait peut-être pas racheté de l'extérieur. Eh bien, on s'aperçoit que même dans les petites communes, il y a une baisse des notables. Alors, les notables sont de moins en moins présents dans les grandes communes, mais il y a également une baisse dans les petites communes. Alors, juste un rappel pour bien cadrer les choses. Il faut savoir que 55% des communes en France ont moins de 500 habitants. 55% ont moins de 500 habitants. Et 92% ont moins de 3500 habitants. Hein, pour vous montrer que l'immense masse des communes, c'est des petites communes quand même. Alors, quatrième point. Maintenant, la question, c'est de savoir, une fois qu'on a dit que les postes de pouvoir dans l'espace local en France sont détenus par une élite sociale, pourquoi une élite sociale ne pourrait-elle pas défendre l'intérêt général? La grande question, c'est de savoir si l'élection, c'est une représentation du peuple, ou est-ce qu'une élection doit aboutir à une représentativité du peuple? Et là, les élus en place vont vous dire, moi, je n'ai pas été élu pour être représentatif, j'ai été élu pour représenter le peuple, et j'en suis tout à fait capable. Vous voyez, on pourrait imaginer une élection où il y aurait des quotas, où on dirait, c'est ce qu'on a fait aussi pour les femmes, hein, il faut la moitié de femmes, moitié hommes. On pourrait dire qu'il faut tant de pourcents de jeunes pour que ce soit représentatif. Et on pourrait multiplier les critères à l'infini hein, pour qu'il y ait une représentativité. Et à la fin, on pourrait presque dire, on va tirer au sort les élus, puisque c'est là qu'on aura le plus de chances d'avoir une représentativité parfaite. Mais ce n'est pas ça notre système actuellement, c'est de représenter. Maintenant, le problème, c'est que quand on fait de la sociologie et qu'on regarde ce que défendent nos élus, quand on regarde ce que pensent les différentes catégories sociales, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas possible de mettre son costume social, je dirais, au vestiaire, comme on pourrait mettre, quand on va faire du sport, on met son vêtement de ville au vestiaire, on s'habille en sportif et on n'est plus que sportif. C'est pas possible. Notre origine sociale, les conditions d'existence dans lesquelles on vit, non seulement nous collent à la peau, mais elles font partie de nous-mêmes. On ne peut pas s'en séparer comme ça. Alors, il existe peut-être des solutions, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir, faire, j'allais dire, une analyse de ce qu'on est, de qui on est, d'où on vient, et en quoi nos pensées sont influencées par nos conditions d'existence, par notre origine sociale. C'est possible, c'est ce que des sociologues essayent de faire, avec très grande difficulté. C'est-à-dire qu'on essaye, dans notre travail, de se dire, mais pourquoi est-ce que je pense les choses comme ça, est-ce que c'est pas justement parce que je suis issu de telle ou telle catégorie sociale que je vais critiquer telle ou telle autre catégorie sociale? Et donc c'est un travail d'auto-analyse qui est très très dur et qui n'est pas fait comme ça en un clin d'œil. Eh bien, quand on regarde comment vivent au quotidien nos élus, notamment ceux qui ont du pouvoir, les maires des communes les plus importantes, les conseillers généraux, régionaux, etc., et a fortiori les gens qui ont des postes encore plus importants en France, eh bien on s'aperçoit qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas du tout le temps. Ils sont dans une urgence au quotidien qui, je dirais, empêche de faire ce travail. Mais il y a d'autres barrières, c'est qu'eux nient le fait que leur origine sociale influence leur façon de faire de la politique. Ils pensent que, naturellement, ils sont capables de représenter tout le monde, toutes les catégories d'intérêt. Eh bien, je pense que ce n'est pas du tout possible dans ces deux conditions. D'abord parce que chacun fait partie d'un milieu social, est influencé par lui dans ses pensées, mais qu'en plus, quand on nie le fait qu'il y ait une influence de ce côté, eh bien, c'est encore plus mal parti. Alors, ces effets sont le plus souvent inconscients et donc très difficiles à maîtriser. Alors, certains élus pensent qu'effectivement, ils ne sont pas forcément les plus aptes à penser toutes les catégories, de penser de la manière dont pensent d'autres catégories sociales, et essayent de donner la parole aux citoyens. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Et alors là, je vais faire un raccourci énorme, hein, parce que je n'ai pas le temps d'en parler. On pourra éventuellement en discuter au moment du débat. Mais grosso modo, la démocratie participative, j'ai montré dans différents écrits, dans différentes enquêes, qu'elle elle a bien peu de succès. Elle rassemble grosso modo entre 0,2 et 2% de la population. Elle a par contre un succès médiatique. C'est-à-dire que son succès, c'est plus le succès médiatique que le succès réel sur la prise de pouls, la prise de parole réelle des citoyens. Alors, dernier point sur l'analyse, que nous proposent les réformes actuelles, celles qui sont en cours? Je vais insister sur la réforme des collectivités territoriales, qui a été votée déjà il y a un ou deux ans. Une des réformes, c'est que le scrutin de liste bloquée, dont j'ai parlé tout à l'heure, là où on n'a plus le droit de panacher et où on concentre le pouvoir sur la tête de liste, eh bien, elle ne va pas être abrogée, malheureusement. Mais le seuil à partir duquel ça sera obligatoire, ça sera imposé, ça sera plus 3500 habitants, mais 500 habitants. C'est-à-dire qu'on va passer de 3500 à 500. Certains disent, oui, mais 500, c'est trop petit, on va passer peut-être à 1000, mais ça sera soit 500, soit 1000 habitants. Vous voyez les effets que ça peut avoir. Deuxième réforme, les conseillers régionaux ne seront plus élus à la proportionnelle, mais au scrutin uninominal. Donc, je vous laisse deviner les conséquences. Enfin, ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on va fusionner, hein, vous savez, les conseillers généraux et les conseillers régionaux en une seule élection. Et ça sera des conseillers territoriaux. Mais grosso modo, ça veut dire qu'on abandonne la proportionnelle du conseiller régional pour le rendre uninominal, avec toutes les conséquences que vous savez, avec une sélection beaucoup plus forte où il y aura beaucoup moins de femmes. Regardez actuellement les conseillers généraux, 12,9%. Beaucoup moins de jeunes, beaucoup moins de classes populaires, ça va donc avoir un effet délétère. Ensuite, pour les scrutins indirects, comme l'intercommunalité, pas de changement, donc ce sera toujours indirect. Petit changement, c'est qu'on saura d'avance sur les listes communales qui sera délégué intercommunal quand la liste va gagner, quoi. C'est la seule chose qu'on saura. Pas de proportionnel non plus aux législatives, bien sûr, ou alors un tout petit peu, je crois 5 ou 10% des députés. Donc vous voyez, les réformes en cours ne vont qu'aggraver les choses. Alors, dernier point, est-ce que j'ai encore le temps? Je suis à 24 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment reconquérir la démocratie? Vous voyez le titre de mon intervention, une réappropriation collective de la démocratie. Premièrement, je pense qu'il faut réaffirmer que chaque citoyen est capable de prendre des responsabilités politiques et de les assumer. C'est-à-dire qu'il faut essayer de combattre l'idée que quand on est jeune, quand on est femme, quand on est ouvrier, ben on aurait moins de capacités, etc. Alors je ne dis pas, ce n'est pas nier les compétences nécessaires pour exercer un mandat. Je crois qu'il y a des compétences réelles. Mais c'est de réaffirmer que chaque citoyen est capable, mais à l'aider en cela. Alors comment l'aider en cela? En lui donnant les moyens, notamment de se former. J'ai parlé de l'absence de formation à l'exercice d'un mandat. Je pense qu'il faut instituer des centres de formation, de préparation des citoyens à la prise de responsabilité politique, mais qui ne soient pas sous l'apanage de syndicats, de partis politiques, comme ça peut l'être en partie en ce moment, mais que ce soit quelque chose de gratuit et auquel auraient accès non seulement des élus, comme c'est en partie le cas actuellement, les élus, ils ont des droits à la formation, etc., mais ce n'est pas des formations spécifiques, c'est des formations à gauche, à droite, d'ailleurs c'est le cas de le dire, mais des formations gratuites, mais accessibles à ceux qui brigueraient un mandat plus tard. C'est-à-dire qu'on se prépare à l'avance, là il y a des élections dans 3 ou 4 ans, j'ai droit à une formation, donc je vais aller me former dans des domaines que j'estime maîtriser moins que les autres. Et pas seulement des domaines de gouvernement, local ou national, mais des domaines comment accéder, c'est-à-dire prise de parole en public, comment organiser une campagne électorale, qu'est-ce que ça suppose, etc. Voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut replacer la démocratie locale et nationale, mais ça, c'est un autre souci, sous le signe de la décision collective. Alors, en principe, la démocratie devrait être sous le signe, puisqu'on a des conseillers municipaux qui se réunissent régulièrement, on a des conseillers régionaux, donc normalement, ça devrait être collectif, ces décisions. Mais, en fait, on s'aperçoit dans les faits que ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tout le pouvoir est concentré presque sur un seul homme, le maire, le chef de l'exécutif dans les différentes instances, éventuellement quelques collaborateurs, un ou l'autre adjoint, le cabinet avec des experts qui sont nommés par le maire ou par le président du conseil général ou régional. Mais c'est très limité. C'est quelques personnes qui concentrent l'ensemble du pouvoir. Et je pense que c'est contraire à la démocratie et à l'idée même de démocratie. Alors, partout où c'est possible, il faudrait donc privilégier le partage du pouvoir politique plutôt que sa concentration. La décision concertée et collective ou le recours au référendum plutôt que la décision individuelle. Alors, comment faire? Alors, concrètement, il faudrait revaloriser, en la libérant, la parole du conseiller ordinaire, hein, pas les adjoints, pas le maire, pas le président du conseil général, etc. C'est l'ensemble des élus. Or, comment faire pour lui redonner du poids? Il y a plusieurs solutions. D'abord, il faut des scrutins de liste partout. Il faut abroger les scrutins uninominaux qui concentrent le pouvoir sur un seul homme. D'ailleurs, un homme. Ensuite, il faut débloquer les scrutins là où ils sont bloqués. Comme ça, les votes permettraient de panacher effectivement, de montrer que celui qui est en tête de liste, ben, ce n'est pas forcément celui qui accrédite ou qui agrège le plus de sympathie ou de votes des électeurs. Ensuite, ça serait des moyens pour les autres conseillers d'avoir plus de poids. Ensuite, il faudrait appliquer la proportionnelle intégrale, comme c'est le cas dans plusieurs pays européens. Le grand argument en France, avec cette forme de prime aux vainqueurs, c'est de dire qu'il faut donner une majorité écrasante pour donner les mains libres au pouvoir de s'exercer. Parce que sinon, c'est chaque fois, on revient à la Troisième République, ou la Quatrième République, etc. Donc, on voit que dans d'autres pays européens, ça marche tout à fait bien. Mais la différence, c'est quoi? C'est que comme il n'y a pas de majorité, généralement, dans ces communes en Allemagne, par exemple, ou en Belgique, il n'y a pas de majorité. Donc, chaque fois qu'il y a une décision qui doit être prise, il faut composer une nouvelle majorité. Donc, il faut convaincre différents groupes politiques ou différents conseillers pour gagner leur confiance avec des arguments. Alors qu'autrement, pas d'argument, on impose, on sait que de toute façon, la majorité est silencieuse, Ça, je ne l'ai pas expliqué, effectivement, c'est qu'actuellement, dans notre système démocratique local, comme il y a une concentration dans les scrutins de liste bloqués sur la tête de liste, eh bien, chaque membre de la liste du futur maire, on va dire, fait en quelque sorte allégeance au maire, à la tête de liste, et ça va se retrouver dans toutes les décisions tout au long du mandat. Je prends juste un exemple, j'en pourrais citer plusieurs si vous me demandez tout à l'heure. Un adjoint au maire qui fait état du mécontentement de gens dans son quartier. Elle fait une intervention, c'est à propos d'un tram à Reims. Elle dit que beaucoup de commerçants sont contre ce projet de tram, qui était porté par le maire, bien sûr. Voilà, j'essaie de relayer la parole des habitants de mon quartier. Quel a été le mot du maire qui concluait cette intervention ? Je vous remercie, madame l'ex-adjointe. Et ça s'est vu souvent, des gens qui ont été démissionnés, retrait de délégation, parce qu'ils n'ont pas adopté le point de vue du maire sur un grand projet. Voilà. Alors c'était le cas à Colmar, dans différentes communes, pour vous montrer qu'il y a une allégeance, pas seulement des adjoints, mais de l'ensemble des membres d'une liste. Alors qu'est-ce qu'on peut encore proposer ? Si on fait la proportionnelle intégrale, on ne fait pas de deuxième tour. Comme ça, on distribue les postes en fonction des résultats du premier tour. C'est comme ça l'ensemble des gens qui sont exprimés peuvent être représentés. Ensuite, comment favoriser la collégialité des décisions pour éviter la personnification du pouvoir ? Eh bien, il faut réduire, au contraire, le rôle du chef de l'exécutif. Il ne faut pas lui donner plein pouvoir. Il faut pouvoir le révoquer à mi-mandat, par exemple, comme ça a été souvent proposé. Ou alors faire un maire tournant. Il faut limiter, bien sûr, le nombre de mandats, l'interdiction absolue de cumul de mandats importants. Il faut favoriser la participation des citoyens ordinaires par des référendums, plus réguliers que ça ne l'est actuellement, à condition, bien sûr, que ces référendums soient accompagnés d'un débat contradictoire nourri, pour que ça éclaire effectivement les décisions. Et puis, on pourrait imaginer aussi, d'ailleurs, je suis dans une région où ce genre de choses avait été imaginé, je crois, des comités de citoyens qui seraient tirés au sort, peut-être, qui feraient une sorte de veille du travail des élus, mais qui auraient pas seulement pouvoir de donner son avis, mais qui pourraient convoquer elles-mêmes un référendum local. Et qui serait peut-être ouvert au-delà de simplement les électeurs à d'autres catégories, les plus jeunes qui sont volontaires ou bien des étrangers qui sont tout autant des habitants et qui subissent les conséquences des décisions locales. Voilà ce que je pouvais dire à ce propos. Je vous remercie.
Merci. Donc Samuel Bourron, je te laisse faire la transition donc.
Donc merci, moi je vais essayer d'être aussi clair que la communication précédente qui va venir un petit peu en écho à cette question comme ça de la clôture de l'espace politique puisque je vais m'intéresser moi à ces conséquences.